Chers amis, bonjour. Ceci est la deuxième partie de La tête hors de l'eau, dont j'ai fait la première partie hier à 14h. Et le thème général de ces deux émissions, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, c'est peut-on toujours distinguer le bien du mal? Alors, ça a l'air d'un sujet de philo pour le bac, mais en réalité, je pense qu'on peut s'intéresser à des sujets comme ça, même dans le cadre d'émissions. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, hier, 24 juin, c'était le bien, ou quand le parfum des vertus est plus fort que l'odeur fétide de la paresse ou de la peur. Mon invité était Pierre Chazeran, qui nous a parlé de son livre Pères et pèlerins, 50 ans de pèlerinage des pères, préfacé par Monseigneur Rey. Alors aujourd'hui, mon invité assume le fait d'être le mal, ou quand le parfum de luxe ne peut couvrir les remugles des dérèglements personnels, voire politiques. Donc j'espère, mon cher invité Franck Bulleux, que vous n'êtes pas trop contrarié d'incarner le mal.
Non, on va garder, comment dire, d'abord bonjour Catherine, on va garder l'aspect manichéen de la société.
Voilà, mais c'est une interrogation fondamentale quand même, face à laquelle nous sommes chacun de nous confrontés. Donc, nous alimentons ainsi le débat. Enfin, j'alimente ainsi le débat. Et donc le prétexte de cette plongée vers ce qu'on peut appeler le mal, c'est votre livre, donc Françoise Dior ou le crépuscule d'une Valkyrie, qui est paru chez Ars Magna, dans la collection Le Devoir de mémoire, et qui vient de sortir, en fait. Hein,
Oui, en septembre.
Septembre, c'est ça. Il est sorti en septembre. Et donc, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Non pas que je sois passionnée par la personnalité même de Françoise Dior, je ne suis pas sûre que je m'en serais fait une copine, mais j'ai été passionnée parce que dans un petit livre que j'ai commis l'an dernier qui s'appelle La France Colin Maillard, je dis justement que les gens sont là, les bras tendus, ils ne savent plus qui représente quoi, qui est qui, tout change sur le théâtre qui est devant eux. Et donc dans ce livre, il y a la démonstration éclatante de ce que ça peut donner, effectivement, dans un esprit comme celui de Françoise Dior, qui se veut un esprit politique, mais qui n'est pas un esprit véritablement politique, et qui n'est pas en tout cas un esprit cartésien, qui, enfin bref, qui se laisse aller à ses émotions, à ses sentiments, ce que fait tout le monde d'ailleurs, hein. C'est un, comment dire, un effort de s'attacher à observer, à déduire, et finalement à prendre une position. C'est un effort, c'est pas quelque chose de naturel. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est le triomphe de l'émotion, le triomphe du sentiment, donc le triomphe de la haine, parfois de l'amour, mais plus souvent de la haine. Donc ça m'a beaucoup beaucoup intéressé. Alors, si vous permettez, mon cher
Oui,
invité.
puis Catherine, vous auriez même pu croiser Françoise Dior à la messe dans le sud de la Manche. Hein, je sais que vous êtes comme moi, vous êtes une amoureuse de la Normandie. Le mal peut s'incarner et puis en même temps, parfois, se désincarner. Il n'y a pas d'identité absolue chez l'être humain.
Non, mais je ne pense pas qu'elle m'aurait plu. Voilà. Rien.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Je ne pense pas qu'elle m'aurait plu, mais ça n'empêche pas de s'y intéresser.
Bien sûr.
Alors, si c'est possible, puisque nous avons, tel feu Jacques Chancel, une grande émission avec un seul invité, ce qui est un format tout à fait agréable, je vais tout de même caser mon petit édito, si ça ne vous contrarie pas, cher ami.
Non. Bien sûr.
Alors, on vous le dit partout, sur tous les sites, dans toutes les langues, et pour les Parisiens jusque dans le métro, buvez, buvez. Alors, buvez de l'eau, hein, attention, les écolos veillent. Buvez pour vous hydrater. L'occasion de prendre un beau mot grec, udor, l'eau d'où vient hydraulique, évidemment. Et puis, on pourrait ajouter, enlever l'écharpe tricotée par votre grand-mère, vos moufles de ski, votre damar, vos barésilles, bref, tout ce qui pourrait empêcher votre corps de respirer librement, de l'air brûlant, certes, mais c'est toujours mieux que de ne plus respirer du tout. Mais ce qu'on a oublié de vous dire et que je vais vous dire, moi, maintenant, qui est mon expérience de la matinée et qui est de la première importance, c'est que Soudain, dans une paisible salle à manger où est servi le petit déjeuner, peut retentir un cri de dégoût et de désespoir à la fois. La maîtresse de maison peut se lever brusquement et courir vers la porte où la chaleur, heureusement, n'est pas encore entrée et sortir, vomir du haut des marches du perron sur les pauvres fleurs qui pourtant n'avaient rien demandé. Le lait, mes amis, le lait, ah, qu'il est beau le débit de lait, mais pas toujours, pas quand il fait 42 degrés que quelqu'un a dû le laisser, oh, pas plus de 5 minutes, peut-être, et donc dans cette étuve, et que oui, bien sûr, le lait a tourné. Donc je vais dire à nos dirigeants que dans le métro, ils mettent aussi, attention, rentrez votre bouteille de lait, passez 5 minutes. Alors, chaleur toujours. Elle est bienvenue, celle-là. Cette chaleur, l'affaire Epstein passe à la trappe. On ne se préoccupe plus que d'une question absolument primordiale, faut-il ou non climatiser? Voilà, déjà que le terme climat est au centre de nos conversations depuis à peu près 5 ans, mais en plus, là, on a ce dilemme terrible, faut-il ou non climatiser? Alors, monsieur Breton, à qui on a dû donner que des épluchures et non les pommes de terre qu'on donne à Breton habituellement quand il était petit, eh bien, il a un plan climatisation. Alors, ce plan climatisation, c'est un petit peu comme les plans de déneigement pour les 4 jours de neige par an, vous savez, voilà. Et donc, ce plan, eh bien, comme il faut pas que ça coûte cher, la climatisation, hein, il a sorti sa calculette et il a dit, on n'a pas besoin, par exemple, d'en mettre dans toutes les pièces. Alors sachez, monsieur Breton, le PDG, le surdiplômé, le directeur d'administration de l'Union européenne, que si vous ne la mettez que dans une partie de la maison, c'est comme si vous n'en mettiez pas. Parole de celle qui, passablement énervée par cette politique radine suivie par beaucoup de Airbnb dans les pays du Sud, en revient et cette fois a fait la demande, parce que ça n'est pas sur les feuilles Airbnb, ça n'est pas indiqué, a fait la demande directement au gîte pour savoir s'il y avait de la clim dans toutes les pièces, car le souvenir terrible de ce gîte où il n'y en avait que dans le salon et que dans la chambre des parents, ce qui faisait que les pauvres enfants étaient absolument cramés de chaleur, ça engendrait bien des discussions et bien des disputes. Donc voilà. Alors Éric Ciotti, lui, a dit un truc simple et clair. Je climatise les hôpitaux et les écoles et je dépose une proposition de loi dans ce sens. Donc, nous attendons la proposition de loi de Monsieur Ciotti. Alors, nous avons vu ces jours-ci, hein, de ces merveilleux jeunes UDR, ciottistes donc, qui a obligé le gouvernement, pas plus tard qu'hier, à reconnaître que l'Assemblée nationale avait voté contre l'obligation pour les médecins de trahir le serment d'Hippocrate. Donc, c'était, je vous recommande de visionner, comme on dit aujourd'hui, de voir en tout cas cette vidéo qui est assez savoureuse puisque le pauvre rapporteur est là et ne sait plus très bien à quel saint se vouer. Alors, les infirmiers et les pharmaciens sont suivre, ils vont suivre. Ils vont demander aussi, il ne s'agit pas de, parce que si on empêche les médecins, les infirmiers et les pharmaciens, évidemment, ça va être embêtant parce qu'on ne pourra même pas se le faire tout seul. Donc, quand même, donc c'est pas ça la question, c'est l'obligation la question. Voilà. Par ailleurs, et les filles, qui veut pas être en retard quand même, parce que c'est bien. C'est bien les grandes phrases, mais la politique, c'est quand même la politique de tous les jours, hein. Alors, LFI annonce cette semaine une proposition de loi pour l'apprentissage obligatoire de la nage. Voilà. Ça, c'est formidable. Moi, je croyais que c'était obligatoire, mais non, il paraît que ce n'est pas obligatoire. Et donc, en prévision de sa prochaine victoire à la présidentielle, je suppose, ils veulent nous apprendre à nager. Voilà. Alors, après cette affaire terrible de la petite Liana, et il y en a encore un depuis hier, un pauvre garçon de 12 ans qui est mort encore, agressé par 5 barbares qu'on n'ose même pas nommer des humains. Eh bien, après tout ça, eh bien, il y aura une loi, mais il ne faut pas être pressé, hein, parce que ce sera en octobre. Il n'est pas tout à fait question de prendre tout de suite, des mesures. Alors, repentez-vous, le virus Ebola arrive, soi-disant, on verra, via un médecin humanitaire revenu de la RDC, République démocratique du Congo, par avion. Notons tout de même que 13 500 écoles, je viens de le voir, je vous en avertis, sont fermées à cause de la canicule. Alors, moi, ça ne m'épate pas trop parce que de mon temps, je ne sais pas si mon invité a vécu la même chose, mais de toute façon, on ne faisait plus rien après le 15 juin. C'était le bac, c'était etc. Donc, on était littéralement en vacances. Donc, on ne voit pas très, très bien cette utilité. Si je me souviens bien, le président de la République avait dit qu'il faudrait moins de vacances d'été. Bon, mais alors, il faut, dans ce cas-là, supposer qu'il n'y ait pas de forte chaleur. Voilà. Nous reparlons de l'Erika. L'Erika a sombré en 1999, occasionnant une marée noire. Et à la suite de ça, mon propre père, Jean Rouvier, avait déposé un projet de payeur-pollueur qui a été accepté au niveau européen. Et nous attendons en France et peut-être en Europe le projet de casseur-payeur, lui qui est toujours à l'étude. Enfin, toujours, là, c'est pas carrément le mal, mais c'est la mort. La mort est au cœur des débats aussi, d'abord à cause de la loi, mais de manière générale. Alors là, nous avons pour le coup quelque chose de clair. J'ai dit tout à l'heure que les idées politiques se mélangeaient de telle manière que plus personne n'y comprenait rien, mais là, c'est assez clair. Alors LFI veut taxer les successions à 100%, carrément. Et Ciotti veut les exonérer totalement. Donc, nous avons là des choix. Qu'on peut appeler droite et gauche, qu'on peut appeler comme on veut, mais en tout cas, on a des choix. On peut pas dire que tout le monde dit la même chose. Alors, Boualem Sansal, enfin, dit, pourquoi je me dis fi, non, dit, je reprends, Boualem Sansal, virgule, dit la légende, puisque le titre de son livre vient du fait qu'on l'appelait la légende quand il était en prison. Ne mâche pas ces mots, l'islamisation de la France est entièrement de la faute des dirigeants. Eh ben moi, j'aurais pas dit mieux. Voilà. Cher Franck, après ces petits apéritifs, donc, nous allons aborder ce livre. Mais avant, je voudrais quand même vous présenter un peu, parce que ce n'est pas très souvent que vous êtes sur Radio Courtoisie, il doit y avoir un assez long moment que vous n'êtes pas venu. Et donc, comme il a été souligné tout à l'heure, vous êtes un Normand passionné de la Normandie, qui a écrit en 2015 L'unité normande, réalité historique et incertitude politique. Très joli, effectivement. Faudra que je le lise. L'Europe des peuples face à l'Union européenne, les populismes identitaires à l'assaut de l'Europe en 2017. Et alors j'en saute quelques-uns, je ne vais pas tous les lire, mais je lis ceux qui nous intéressent plus particulièrement. La fédération, alors ça c'est dans les cahiers d'histoire du nationalisme, la Fédération d'Action Nationale et Européenne, les ultras des années 1960-80. Alors ça nous rapproche un peu du sujet puisque nos auditeurs ne le savent pas encore, mais notre héroïne était tout à fait ultra, justement, précisément. Et puis alors, tout récemment, un peu plus récemment même que ce livre-là, mais ne l'ayant pas encore reçu, je ne pouvais pas vous demander d'en parler, La guerre à l'heure du cyber, d'ailleurs je suis pas sûre de comprendre parce que ça doit être très compliqué, La guerre à l'heure du cyber, puisqu'on est censé être attaqué tout le temps, hein, surtout par la Russie d'ailleurs, notamment par la cybernétique, et donc on lira avec beaucoup d'intérêt ce livre qui vient tout juste de sortir là, hein, c'est ça?
C'est ça.
Voilà.
Chez l'Harmattan.
Chez l'Harmattan, absolument.
Comme celui sur la Normandie, pour lequel, me semble-t-il, mais le temps passe, j'avais été reçu sur Radio Courtoisie.
Ah voilà. Bon, mais là, on va quitter la Normandie parce que même si cette
Non.
femme a habité en Normandie, c'est
Voilà.
pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les errances de l'esprit humain.
Mais je quitte rarement la Normandie parce que j'essaie justement de retrouver cette Normandie à travers, y compris, les êtres qui errent,
Oui,
comme
certes,
Björn.
mais comme nos auditeurs sont du monde entier maintenant,
Oui, mais ils sont courtois, donc ils comprennent mon appétence pour la Normandie.
oui, bien sûr, bien sûr. Alors, et vous avez, cher ami, une appétence énorme aussi pour les études, plein de masters, un master 1, carrière judiciaire, un master 2, analyse des menaces criminelles, non, un DU, analyse des menaces criminelles contemporaines, DU, psychologie criminelle et profilage, master de sciences politiques à Lyon, master 2, histoire à l'université de Caen, mais vous faites collection, c'est pas possible. Hein. Alors vous êtes extrêmement savant, du coup.
Disons que j'essaie d'entretenir mes capacités. Et en fait, j'essaie aussi de rendre compatible avec l'université actuelle ce que je sais. Et je le transmets également. Donc,
Oui,
ça
parce que vous faites
permet. Ça,
des cours de
oui.
formation, des cours et de la formation, hein.
C'est ça. Ça permet aussi de voir un petit peu. Ça permet d'équilibrer son esprit. Voilà. Sans en
Certes.
dire plus.
J'ai oublié un master 2 de criminologie. Alors quand même, hein, par rapport au sujet du jour, puisque nous allons découvrir que cette femme n'était pas complètement innocente de certaines actions très répréhensibles qui sont plus que politiques, qui sont répréhensibles par le code pénal. Et donc, vous
Oui,
avez quand même ce...
qui ne l'était pas à l'époque.
Ah ben, parce qu'on n'a pas prouvé, mais
Non, mais
si...
le suicide assisté n'était pas. Enfin, pardon, la provocation au suicide n'était pas un délit à l'époque.
Là, vous parlez d'elle-même ou de sa fille?
Pour sa fille.
Oui, enfin, on aurait pu découvrir quand même qu'il y avait plus que ça. Peut-être, hein,
Peut-être,
peut-être.
mais je veux dire, si on se base. Vous savez, ça a été le grand débat en
Oui.
1982 avec le livre sur le suicide. Mode d'emploi.
Oui, tout à
C'est
fait.
à partir de là qu'il y a eu une législation sur ce qu'on a appelé à l'époque donc la provocation au suicide. Mais en 78, la provocation au suicide n'existait pas.
Oui, mais enfin, moi, je n'ai pas fait de criminologie spécialement, juste un peu de droit pénal. Mais tout de même, si on avait pu prouver qu'il y avait une intention depuis longtemps et qu'il y avait ci et qu'il y avait ça,
Oui.
on aurait pu le faire, peut-être, compte tenu du contexte.
Peut-être.
Mais je ne veux pas déflorer le contexte parce que
Non.
nous ne sommes pas encore là. Et puis, bah, vous êtes très calé en assurance et de nos jours, bah, c'est très très important les assurances. C'est pratiquement, enfin, c'est une très très grande partie des contentieux d'aujourd'hui puisque nous sommes tous assurés pour tout, mais du coup, forcément, eh bien, il y a des conflits à gérer. Alors, le livre maintenant, venons-en au livre. Alors, Françoise Dior. Alors, ce n'est pas Catherine Dior parce que récemment, nous avons vu, j'ai vu en tout cas un article dans les journaux. Ou sur Internet, je ne me souviens plus, qui parlait de Catherine Dior, qui est donc la résistante de la famille, celle qui a été arrêtée pour ses activités contre l'Allemagne, qui a été en camp de concentration, qui en est sortie, qui a été décorée, etc. Voilà, tout un
Sa
article.
tante, c'était sa tante qui s'appelait
Voilà.
Ginette d'ailleurs, qui s'appelait pas Catherine, mais bon, on l'appelait
Curieusement.
Catherine, donc dont acte. Mais
Ginette, c'est un peu plus
Ginette, oui,
curieux pour des
Ginette était
Dior.
la sœur du père de Françoise Dior, et c'est elle d'ailleurs à qui on doit le parfum, enfin le nom du parfum Miss Dior.
Voilà, exactement. Donc
Ginette,
son
voilà, qui était
frère,
elle.
donc lui a dédié en 1947,
C'est ça.
après des années où les Dior, comme beaucoup 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 d'entreprises et notamment de luxe en France, n'avaient pas été d'une hostilité totale aux Allemands. Eh bien, en 1947, tout ce monde-là a quand même voulu honorer d'abord la
Comme
résistance.
disait Arletty, je ne suis pas très résistante.
Voilà, c'est ça, Arletty. Et puis
Oui, et puis Coco Chanel, enfin. Non, mais je veux dire, oui, bien sûr. Mais disons que il faut pas lier Dior au parfum. C'est vraiment Christian Dior qui va apporter cela dans la famille. Et c'est vraiment après la guerre. Et c'est grâce à l'argent de Marcel Boussac.
oui, le cher Marcel Boussac qui avait un accent extraordinaire parce qu'il était auvergnat, c'est bien ça?
Oui,
Et...
il était né, je crois, de mémoire à Châteauroux, mais il est d'origine du côté de Saint-Étienne, oui.
Oui, il était. J'avais lu sa biographie, c'est un type assez extraordinaire. Et, ah, c'est Sacha Guitry, je cherchais, c'est Sacha Guitry qui disait 4 ans d'occupation avec un S à occupation.
Ah.
Lui aussi, effectivement, mais bon, les théâtres ne se sont pas arrêtés, les cinémas ne se sont pas arrêtés. Moi, j'ai reçu un jour dans une émission ce cinéaste qui a fait Douce et la traversée de Paris. Comment il s'appelle déjà?
Écoutons Lara.
Voilà, Autant Lara. Et lui aussi, il a dit, on n'a jamais eu autant de liberté de créer que sous l'occupation. Ça ne voulait pas dire. Je pense qu'effectivement, on s'occupait de tas de choses autres que ça. Et du coup, dans leur coin, bah, ils continuaient finalement à divertir les Parisiens autant que faire se peut. Mais évidemment, ça n'a pas été très, très
Il y
bien vu.
avait beaucoup de monde aux soirées de l'ambassadeur à Paris, d'Otto Abetz, évidemment.
Ah oui, le fameux Auto-Abetz. Alors, vous dites à la page 7 de cet ouvrage, donc, hein, je répète, Franck Bulleux, Françoise Dior ou le crépuscule d'une Valkyrie. Donc, vous avez fait un petit prologue et vous dites, il entrait dans sa vie, donc la vie de Françoise Dior, c'est faire fi de toute considération morale. Alors, comme ça, on est prévenu de ce qu'on va rencontrer comme phénomène, parce que c'est quand même un
Vous
phénomène.
savez, il est de bon ton de mettre des réserves à tout aujourd'hui. Donc, a fortiori, j'ai préféré mettre une réserve morale à ce qui peut choquer, ce qui est choquant. Mais j'ai aussi voulu indiquer que quand on rentrait dans la vie de quelqu'un, parce qu'une biographie, c'est rentrer dans la vie de quelqu'un,
Absolument.
on n'est pas là pour pratiquer une forme de jugement. Chacun a ses propres conceptions. Il y a le mal, effectivement, qu'on peut considérer comme absolu. Il peut y avoir aussi des dérives, mais j'ai voulu prévenir le lecteur que ce n'était pas une hagiographie, bien sûr, mais que ce n'était pas non plus quelque chose qu'on pouvait trouver sur la toile pour trouver pour lire
Oui.
des choses négatives. Il suffit d'aller sur l'INA et puis on s'arrête là. Moi,
Oui, mais
j'ai voulu aller au-delà.
bien
Mais en
sûr.
expliquant bien que, évidemment, ce n'est pas un modèle, mais ce n'est pas une question de politique, encore une fois.
Ah non, non, non,
Ce
c'est global, là, le
n'est
jugement,
pas
là.
un modèle de vie.
Oui.
Voilà.
Oui, non, c'est une vie qui part un peu dans tous les sens, mais bon, elle n'est pas la seule, évidemment. Alors, vous dites quand même, c'est amusant, ses hauts talons, puisque paraît-il, elle en portait toujours,
Oui.
portait même lors de solstices d'hiver boueux, parce qu'elle était très adepte du solstice et toutes ces
Oui,
choses-là.
toutes ces choses m'ont été rapportées par des témoignages vivants.
Oui.
Par exemple, elle participait très régulièrement aux solstices d'été comme d'hiver en Normandie, justement. Et ça choquait beaucoup les personnes présentes parce qu'elle était toujours dans la boue avec des grands talons où elle faisait l'admiration, évidemment, de nombreuses personnes présentes.
Alors oui, alors vous dites, portées, donc sur ces hauts talons portés même lors de solstices d'hiver boueux, ne furent pas toujours suffisants pour éviter les éclaboussures de la vie. C'est joli comme phrase, c'est bien. Voire même sa fange la plus dégoûtante. Mais pour ça, chers auditeurs, comme on dit dans les publicités, pour ça, écoutez jusqu'au bout. Parce que c'est au bout que vous verrez en quoi, parce que cette dame aurait pu être tout à fait charmante. Mais alors quand on pense... À ces merveilleux vers, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Pour elle, on peut surtout retenir luxe et volupté, en fait. Pour le calme, c'était pas tout à fait
Et l'égocentrisme.
ça. Oui, ça va un petit peu ensemble. Alors, hier, donc, je parlais du parfum des vertus, et aujourd'hui, nous allons parler de parfum, mais pas seulement le parfum du mal, mais aussi le parfum de Christian Dior. Mais ce qui est drôle que j'ai découvert dans votre livre, enfin, j'ai découvert un tas de choses, je ne connaissais pas grand-chose à vrai dire, c'est que ça n'a pas commencé par les parfums, ça a commencé la maison Dior par des engrais.
Exactement, les engrais industriels, où les grands-parents de Françoise Dior ont fait fortune, effectivement. Oui.
Et
Et
là,
les
pour le
engrais
coup,
et la politique. Il y avait les deux dans la famille Dior, dans la Manche, hein. On a même
toujours
eu
à
un
grand,
ministre
oui.
Dior. On
De la
avait un.
planche.
Dans la Manche, oui. On a eu le président du Conseil général, qui fut un Dior également sous la Troisième République. Des radicaux socialistes bontains et effectivement de l'engrais, pas du tout du
Voilà.
parfum.
Ça ne va pas avoir tout à fait le même goût.
Oui.
Et donc, avant de plonger dans la famille, parce qu'il y a tas de choses intéressantes à dire sur cette famille que vous dites dans ce livre, Françoise Dior ou le crépuscule d'une Valkyrie, avant de rentrer dans la famille, on peut simplement noter que, comme vous dites, eh bien, là, aujourd'hui, c'est la famille Arnault, donc c'est LVMH, qui est à la tête de tout ça, avec les parfums, les montres, tout ce qui s'ensuit, parce qu'il n'y a pas que les parfums.
La démocratisation de Dior, oui, absolument. Bah, vous savez,
Alors,
c'est une anecdote, hein. J'étais
oui.
en train d'écrire cet essai ou cette biographie, et je revenais, c'était un dimanche, et je revenais d'acheter le JDD, hein, comme tous les dimanches d'ailleurs, et hop, en page 2, c'était le JDD nouvelle formule, de Geoffroy Lejeune, il y avait une grande publicité, une page, une pleine page, comme on dit, bah, c'était Dior. Hein,
Oui.
donc Dior a été un des premiers publicitaires à rester à rester donc client, si j'ose dire, de JDD. Bah, voilà, c'est une anecdote, mais je veux dire, ça veut bien dire qu'on voit Dior partout. On voit Dior dans les abribus. Dior,
Absolument.
c'est le, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, hein, c'est le chic du tout venant. C'est le chic pour tous.
Exactement. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, je n'aurais pas imaginé que Dior était un vrai nom. J'aurais imaginé que c'était un nom qui avait été coupé en
Ah
deux.
oui, à cause de l'or. Dior, c'est ça. D'ailleurs, je l'explique, je crois, me semble-t-il.
Oui, mais c'est quand
Hein,
même leur
ça,
vrai nom, non?
oui, c'était leur vrai nom, oui. Mais ça vient de l'or, quoi. Ça vient de. Ça vient de Normandie, d'ailleurs, au demeurant.
Il y a des noms en or en Normandie.
Bon,
Je n'en
sans
connais
doute
pas
en
beaucoup.
Normandie occidentale,
Ah
on va dire comme ça, voilà.
Alors, d'ailleurs, on peut remarquer quand même, en lisant votre livre, ça m'est venu quand même à l'esprit que on ne se rend pas compte, c'est encore valable aujourd'hui, hein, tout à fait. Je dirais plus que jamais avec certains hommes politiques qui veulent épouser des princesses qui sont elles-mêmes très liées au luxe. Donc, on découvre que le luxe est une sorte de chasse gardée, en fait, européenne, et d'où d'ailleurs certains débordements antisémites qu'on verra assez souvent revenir, parce que, eh bien, il s'agit de choses qui, traditionnellement, effectivement, comme les fourrures ou comme les pierres précieuses, étaient très largement des entreprises qui étaient dirigées par des juifs. Et donc, on a cette espèce de lutte, peut-être même inconsciente d'ailleurs, hein, mais comment dire, de compétition finalement sur le luxe. C'est ce que j'ai un petit peu vu entre les lignes, hein, parce que c'est pas vous qui dites ça, mais c'est un petit peu vu ce que j'ai vu entre les lignes.
Non, enfin, je veux dire, si je peux me permettre, on est même plutôt dans une acception une familiale non antisémite. Quand
Oui,
on
mais
lit.
quand on regarde, quand même, quand on regarde, que ce soit Chanel, que ce soit, enfin, on
Ah
peut.
oui, l'ambiance, oui, mais ça, c'est une
Oui.
ambiance. Ça, on va pas. Enfin, je veux dire, ce que les gens n'ont plus la conception de l'époque d'avant-guerre. On était dans un univers totalement différent.
Et donc, il y a dans cet univers de luxe, c'est vraiment particulier, hein, et c'est très étonnant. Alors donc, pour revenir à notre héroïne, elle va épouser, en fait, ce qui va la pousser vers des idées qui étaient favorables au national-socialisme, c'est qu'elle va épouser Colin Jordan, ou Jordan, je ne sais pas comment on dit, hein, puisque c'est
Oui,
en
Jordan.
anglais.
Oui,
Et alors là,
son deuxième mariage, déjà en 63.
c'est ça, avant elle a été comtesse quand même.
Elle a été comtesse, oui, elle s'est mariée la première fois en 1956. Hein, c'est pour ça que je disais bien que, et je maintiens, que ce national-socialisme n'a rien d'originel. On est bien dans une progression politique plus ou moins pervertie par différents éléments. Mais à l'origine, on a une comtesse qui a envie peut-être de représenter Monaco, hein, puisque la famille dont elle va,
Ah
avec
oui, ça
laquelle
c'est
elle va
oui.
s'unir, c'est l'époque, les années 50, où il y a un grand débat sur l'héritage monégasque, héritage monégasque dont il sera mis fin grâce au mariage du prince régné avec Grace Kelly. Hein, faut être clair, c'est
Mais
Grace
oui.
Kelly, c'est l'image de Grace Kelly qui va figer Monaco au Grimaldi, donc tant mieux pour eux. Mais je veux dire, jusque dans les années 40, voire le milieu des années 50, en France, il y a un grand débat, alors un débat politique, hein, avec des prétendants autres que les Grimaldi à Monaco. Et donc, Françoise Dior se marie en 56 avec un Comment la Force. Donc, Comment la Force fait partie donc, de cette famille qui revendique, la mère de Comment la Force le revendique, avec force, si j'ose dire, la principauté monégasque. Et moi, par exemple, qui ai rencontré un descendant, je le cite dans mon livre, je crois, il est toujours persona non grata sur le rocher. Toute la famille de Caumont-Lafort, alors évidemment, ils ne vont pas les contrôler. Hein, je suis allé à Monaco, vous aussi, on voit bien qu'il n'y a pas quand même des contrôles au faciès. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont toujours persona non grata à Monaco. Donc, il y a tout cet aspect bling-bling, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, son premier mariage, c'est d'abord un mariage, pas princier, puisqu'elle n'est pas princesse, évidemment, mais dans cette noblesse française. Elle va se retirer dans le château de Fontaine-Française en Côte d'Or. Donc, elle a 23 ans, hein, quand elle se marie la première fois. Bon, donc, il y a tout un univers comme ça, mondain, qui va apparaître chez elle. Bien avant l'histoire de Colin Jordan, avec qui elle sera mariée 6 mois. Et vu ses capacités, enfin c'est elle qui le dit, elle divorcera assez vite.
Oui, ben, dans l'ensemble, elle n'a pas été très, très heureuse, je crois, de ces mariages, puisque
Ah
l'un était
non,
homosexuel, l'autre quasiment
elle était,
impuissant, et le troisième, je ne sais pas quoi.
c'est surtout parce qu'elle était, à mon avis, très exigeante.
Oui, enfin, peut-être si, quand ils sont homosexuels, c'est quand même difficile, hein, je veux dire, de satisfaire une femme,
Oui,
enfin,
mais oui, enfin c'est oui, bon.
Or, vous dites vous-même, ça, c'est pas un secret d'ailleurs, je pense, hein, qu'à la fois Christian Dior lui-même et puis à la
Oui,
fois toute cette nébuleuse autour de lui,
mais
dont j'ai connu
justement,
d'ailleurs certains.
il y avait chez elle une attirance enfin, vers une population homosexuelle. Après, bon, voilà, c'est pas un problème, mais je veux dire, c'est cela qui frappe parfois qu'on n'est pas
Puisqu'elle
toujours.
a fini par l'être elle-même, voilà.
Oui,
Elle a fini
elle
par l'être elle-même.
devait, oui, oui, de toute façon, elle était assez libérée, donc il n'y avait pas pour elle de ségrégation, d'altérité. Il n'y avait pas d'altérité sexuelle, on va
Oui,
dire.
enfin, les femmes peuvent être libérées sans être homosexuelles, hein,
Oui, bien sûr, mais je veux dire, Françoise Dior, mais on sent, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais on sent qu'elle, à la fin de sa vie, elle est usée.
Ah oui, non, mais
Moi,
ça, c'est sûr.
je le mets dans la page 4, hein. Elle a peur des fantômes. Je veux dire, ça fait partie
Ouais.
de. Quand elle ne fréquente plus le comte de Paris et son troisième mari, mais ça, on verra ça plus tard. Donc, elle est quand même. C'est plus la Françoise Dior des années 60. Donc, pour reprendre votre question, la Françoise Dior des années 60, c'est une Françoise Dior donc, qui veut un passeport britannique. C'est son objectif. Elle veut devenir une égérie par rapport à des personnes, j'allais dire quelles qu'elles soient, mais en tout cas par rapport à des personnes. Elle lit dans une certaine presse nationaliste qu'il existe au Royaume-Uni des mouvements ultra, comme vous le disiez tout à l'heure, je vais reprendre l'expression, et elle va s'enquérir de dynamiter ce milieu, de conquérir ce milieu, donc à travers la voix masculine, hein, c'est aussi ça, Françoise Dior.
Oui, elle épouse le chef quand même, hein, le chef du
Ah,
parti.
d'abord, elle réfléchit.
Oui.
Elle se fiancie avec un sous, elle se fiance, pardon, avec un sous-chef.
C'est ça.
Et puis quand elle revient, le sous-chef est en prison, donc elle se dit, je n'aurai pas mon passeport, donc elle change de chef. Et puis, au bout de quelque temps, ce chef ne lui convient plus. Elle s'amourache du secrétaire du chef, avec qui elle revient en France.
Oui, mais il faut quand même, là ça a l'air comme ça léger, mais il faut quand même
Oui,
voir
j'ai
que
résumé, hein.
ces garçons font de la prison et qu'elle n'a pas froid aux yeux parce qu'elle y retourne, elle va les voir en prison, etc. C'est quand même une vraie activiste, c'est pas quelqu'un qui faisait ça juste pour...
Non, dans les années 60, c'est une activiste. En tout cas, entre 62 et 67, c'est une activiste.
Et voilà,
Après,
il y a...
elle a fait un peu de prison à Londres, elle a fait un peu de prison à Nice.
Oui, alors extraordinaire, parce que comme elle est, en fait, elle veut avoir le beau rôle. Ça, c'est un trait de caractère qui en même temps, est séduisant, hein, mais elle veut avoir le beau rôle, donc elle se dit, c'est formidable, la prison, ça va me donner une aura que je n'avais pas, etc. Non, c'est une femme étonnante, hein, ça, c'est certain. Alors, il y a quand même un mystère. Vous y faites allusion et c'est intéressant parce que quand on voit sa personnalité, on peut noter chez certaines personnes dont la naissance pourrait éventuellement être contestée, qui se pensent filles de princes ou d'aristocrates
Ah
ou
oui.
de héros. Il y aurait effectivement une incertitude sur son père, qui pourrait être donc un aristocrate. Né dans la Hongrie actuelle, mais qui était la Serbie, non, qui est aujourd'hui la Serbie, qui était la Hongrie, pardon, et qui était très à droite, mais de bon soutien de Franco, etc. Donc, il y a aussi certainement un attrait conscient ou inconscient.
Je vais vous dire pourquoi j'y ai fait allusion. D'abord, j'y ai fait allusion parce qu'on me l'a rapporté. Hein. C'est un témoignage oral.
Voilà, c'est pas sûr, bien sûr.
Non, c'est pour ça que je n'ai pas
Bien
trop
sûr.
insisté. En revanche, ce que j'ai constaté, c'est le peu d'attrait pour son père, de Françoise Dior pour Raymond Dior. Raymond Dior, donc, qui est écrit dans Le Crapouillot dans les années 30, etc.
Alors oui, qui était à gauche, lui, enfin.
Oui, qui est pacifiste. C'est un socialiste pacifiste. Hein,
Et
bon,
ils ont souvent fini hitlérien, d'ailleurs, parce que
oui,
Hitler,
je n'osais
c'était
pas le
pour eux
dire.
le
Mais
pacifiste, en fait.
voilà, je n'osais pas le dire. Mais non, il n'a pas adhéré au RNP ni au PPF, ce qui lui a permis d'être tranquille à la Libération. Mais effectivement, vous avez raison. Ce que je voulais dire, c'est que je prends un seul exemple concret. En 66, fin 66, moment de Noël, me semble-t-il, Françoise Dior est en prison à Nice. Son père décède. Hein, Madame Dior va rester veuve de 1966 à 1999. Hein,
Ah oui,
elle va mourir à plus de 100 ans,
c'est
la
ça.
mère de Françoise. Et à ce moment-là, on avait la possibilité, comme on l'a toujours évidemment, de demander à aller participer, enfin, à aller dire un dernier hommage, hein, faire un dernier hommage à son père. Et Françoise Dior ne le demande même pas.
Non.
Elle ne dit même pas, tiens, ça va me faire une sortie, si j'ose dire, pour aller. Il a été enterré en Île-de-France, à Noisiel, je crois, de mémoire. Et Françoise Dior ne le demande pas. Autant Françoise Dior sera toujours proche de sa mère, notamment pour des raisons financières, il faut le rappeler
Oui,
clairement. Hein,
elle n'a jamais travaillé, en fait, ouais.
non. Non, mais alors attention, il faut quand j'ai lu, moi, toutes les bêtises sur Françoise Dior, on pourra en faire un petit catalogue si vous voulez. L'argent. Françoise Dior n'a jamais eu d'argent. Simplement, quand elle en avait besoin, elle en réclamait à sa mère. Et
Oui.
comme sa mère était propriétaire immobilier à Paris, hein, notamment elle avait un superbe immeuble qui existe toujours à l'Opéra, eh bien, elle lui cédait, on va dire ça comme ça. Mais quand j'ai lu, même de gens ultra, comme je reprends toujours l'expression, oh, j'ai bien connu Françoise Dior, j'allais dans son manoir et elle finançait mon mouvement. Quel manoir? Françoise Dior n'a jamais eu de manoir, elle n'a jamais financé de mouvement. Voilà, elle avait de l'argent parce que sa mère lui en donnait. Il est vrai qu'à un moment donné, elle a fait un don au Parti prolétarien national-socialiste de Jean-Claude Monet en 1964 ou
Oui, petit-fils de
1965.
Monet d'ailleurs, oui, de Claude Monet.
Petit-neveu.
Il veut.
Oui, enfin, c'est pas trop le sujet, oui. Petit-neveu, peut-être un petit peu tiré par les cheveux, si j'ose dire, mais enfin, gardons cet esprit, puisque je l'ai écrit dans le livre. Je vais rester sur cette acceptation,
Mais c'est pas un
sur cette
reproche, hein, c'est
acceptation.
juste une.
Non, mais je n'en suis plus persuadé. Voilà, mais c'est pour
D'accord.
moi que je dis ça. Mais bon, oui,
D'accord.
petit neveu. Allez, allons-y. Mais bon, voilà, c'est tout. Oui, parce que quand on fait un livre, chère Catherine, moi, je suis toujours dans la recherche après le livre. Et j'ai des éléments nouveaux ou des éléments sur lesquels je m'interrogeais. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien, moi aussi, un petit peu me remettre en cause sur des éléments du détail, d'ailleurs, hein, sur la filiation de Monet. Bon, donc oui, c'est une,
Alors,
oui, pour en
oui.
revenir aux années 60, oui, c'est une aventurière, c'est une activiste, c'est une
Elle est
meneuse d'hommes
convaincue,
aussi.
elle est très convaincue. Elle est
C'est
très
une meneuse
corrompue.
d'âme.
Elle
Alors,
se marie selon des traditions, alors qui sont à la fois, c'est pas seulement Hitler, c'est même avant, hein, c'est où on échange le sang, etc., qui
ah
sont
oui.
très très liées à comment appelle-t-on ça, à des croyances,
Indo-germanique.
voilà, antérieures au christianisme, bien
Oui.
sûr, et complètement. Elle dit, vous lui faites dire, ou elle dit à un moment donné, je l'ai noté. L'Allemagne est notre terre sainte comme la Palestine pour les Juifs et les chrétiens. C'est quand même très clair, je veux dire. Elle est convaincue, tout à fait,
Ah
que c'est
oui.
là que l'humanité, comme disait Nietzsche, est la plus haute et la plus claire, quoi, en quelque sorte, hein, chez les Allemands. Et ça va donc orienter beaucoup. C'est une espèce de. Même si on considère les conséquences uniquement politiques et tragiques qu'on connaît, mais si on considère le mouvement des idées au XIXe siècle en Allemagne, c'est une espèce de romantisme. C'est-à-dire que il y a cette race supérieure, c'est eux, et donc ils ont tout ce passé, les Nibelungs et le reste, et c'est une espèce de religion, c'est vrai. Il y a toujours des adeptes, d'ailleurs, de cette religion-là, qui vont au solstice, qui font tout ce qui est dévotion, enfin, on en connaît, et qui, évidemment, ne peuvent difficilement concilier ça, par exemple, avec le christianisme.
Oui, c'est sûr. Après, ces grands débats sur certaines formes de christianisme ou voire d'autres religions, d'ailleurs. Enfin, on ne va pas aborder qui serait plus
Oui, si,
proche de.
oui, le sujet est très intéressant parce qu'à
Oui.
un moment donné, plus tard, quand j'y arriverai, on parle aussi d'islam, judaïsme, christianisme. Moi, je trouve le sujet passionnant, en dehors de la dame
Ah
elle-même. Ce sont des sujets passionnants.
de toute façon, cet épisode des années 60, elle y mettra fin elle-même parce qu'elle trouvera dans les années 70 justement une forme de vie plus monotone. Plus normé aussi.
Plus tranquille, oui.
Ah, c'est ce que je disais en blaguant tout à l'heure en début d'émission, lorsque je disais vous auriez pu la croiser dans une église à Ducey, évidemment.
Mais c'est d'autant plus intéressant pour nous aujourd'hui. Je parle surtout de moi parce que je n'ai pas cette culture. Moi, je n'ai pas du tout été dans cette culture de cette droite-là qu'on peut appeler, je ne sais pas comment, enfin, soralienne si on veut, ou pas du tout. C'est-à-dire que je ne connais pas tout ça. Je le découvre en fait. Hein. Moi, c'était plutôt dans votre livre. Alors, on voit bien d'ailleurs. Moi, c'était plutôt la lignée Tixier-Vinancourt, hein, c'est-à-dire catho, plutôt militariste, plutôt viril, etc., qui lui plaisait pas. Elle préfère Rivarol. Bon, bah voilà, il y a effectivement des tendances qui sont différentes et que je découvre en lisant votre livre. C'est ça qui est tout à fait. Par exemple, Tixier-Vinancourt, donc c'est ce que je viens de dire là, plus c'était la défense de l'Occident, Occident en avant, etc. Plutôt anti, en gros, hein, pour faire des généralités, comme on fait quelquefois dans les cours parce qu'on est obligé, mais c'est toujours plus subtil que ce qu'on dit, mais plutôt anti-arabe et anti-islam et pro-israélien, que eux sont plutôt l'inverse, c'est-à-dire les soraliens sont plutôt pro-islam et anti-israélien, en gros, hein, parce que bon, les choses sont mouvantes, et puis on ne peut pas faire un package comme ça des gens. Mais moi, ça m'a vraiment éclairé sur un tas de choses que j'ignorais complètement.
Non, c'est vrai, on peut résumer, enfin, en tout cas, la naissance des mouvements nationaux et nationalistes dans les années 60, enfin je dis la naissance, la renaissance, puisqu'il y a eu, la pause d'après-guerre, est fondée sur ce critère-là, évidemment, oui. Avec comme grosse exception, Otto Skanzeny,
Ah oui, je
hein,
ne connais pas, oui.
voilà, ancien militaire allemand qui va travailler pour le Mossad. Alors là, c'est bouleversant pour ce monde-là. Mais
Ah oui,
bon,
ça, vous le notez. Ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à
non, mais je
comprendre.
veux dire, c'est un grand bouleversement pour ce monde-là.
Oui.
Parce que se dire que quelqu'un qui devrait être de ce côté-là travaille pour le Mossad, c'est voilà. Mais je veux dire, oui, globalement, on est un peu dans ce monde. Après, on est aussi dans le monde, vous savez, on est aussi dans le monde des services, hein. Quand je
Oui.
dis des services, c'est-à-dire des services secrets. Moi, j'ai rencontré, je n'ai pas tout mis dans mon livre, bien évidemment, j'ai rencontré des gens qui détestent Françoise Dior parce que pour eux, C'est pas tout ce qu'on a dit. C'est tout simplement une agent de service secret infiltré et qui travaillait pour le cercle Wiesenthal à Vienne.
Ah oui.
Donc, voilà, pourquoi est-ce qu'elle va à Vienne? Pourquoi est-ce qu'elle va à Vienne à ce moment-là? Bah, pour rencontrer Wiesenthal. Bon, je suis pas rentré dans ces dérives parce que c'est l'époque de qui va préparer l'assassinat de Duprat en 77. Enfin bref, on est dans des dérives chez les ultras où ce que vous venez de dire, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de toute pensée politique.
Oui, mais ça m'avait vraiment échappé, en tout cas dans ses conséquences, parce que, alors là aussi, on peut se dire, l'argent aussi rentre en compte, certains sont payés, certainement.
Oui.
Donc, ils retournent leur veste tout simplement parce qu'ils sont payés par les autres. Mais c'est en tout cas, moi, je dis aux auditeurs, hein, c'est très intéressant de lire ce livre, au-delà de la personne de Françoise Dior, parce que c'est un... On a tendance, nous d'ailleurs, à mieux connaître l'extrême gauche que l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas forcément toutes les divisions, toute l'histoire qui s'est déroulée. On ne connaît pour la plupart d'entre nous, et même moi, pour qui c'est un sujet d'étude, hein, en sciences politiques, mais on ne connaît bien que la période qu'on a vécue, et je veux dire dans ces divisions subtiles. Parce que la période d'avant, on ne mesure pas tout à fait. Et vraiment, ça me, voilà, c'est pour moi, c'est tout à fait l'illustration du fait que c'est extrêmement complexe et que beaucoup de gens peuvent s'égarer non seulement entre la gauche et la droite, mais dans chacune de ces appartenances auxquelles on donne ces noms-là, peuvent aussi ne pas du tout comprendre certaines réactions, certaines haines, certaines divisions, parce que bien il faut remonter, et c'est ce que vous faites dans ce livre, il faut remonter pour voir un petit peu où les choses se sont séparées en quelque sorte. Donc
C'est
c'est
vrai.
voilà, c'est un bon travail d'historien que vous avez fait, parce que vous apportez à chaque fois des éléments précis, c'est pas une dissertation, vous apportez des éléments en fait.
Oui, ben, c'est comme hein, vous connaissez nos travaux, Catherine, quand on transmet un savoir, il faut toujours argumenter.
Oui.
Sinon,
Alors
ça serait une simple dissertation, oui, comme vous dites.
ce qu'on peut faire, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des espèces de ponts explicatifs. Donc, j'avais voulu inviter Thierry Coudert, mais il ne pouvait pas, qui désormais est élu à Dijon, qui est un ancien préfet, et qui a écrit ce livre magnifique, Anglais excentrique, qui, vraiment, sur la couverture, on voit quelqu'un avec son cheval dans son salon. Enfin bon, on est tout de suite dans l'ambiance de l'excentricité anglaise. Mais ce que ce livre m'a appris et que je ne savais pas, c'est que une grande partie d'entre eux n'étaient pas du tout au côté Churchill. Ils étaient au contraire, dès que l'Allemagne c'était très bien, que c'était des gens qui se tenaient bien, qui étaient beaux, qui étaient bien habillés, qui étaient grands, etc. Et que au moins c'était un pays qui se tenait, pas comme l'Angleterre. Et c'est drôle parce qu'on retrouve les débats actuels, hein. Par exemple, quelqu'un dit, ah, mais les Anglais, de toute façon, ils s'allient avec les Black Muslims. C'est drôle parce que maintenant, c'est un problème qui effectivement se pose. Peut-être qu'ils n'ont pas été effectivement assez vigilants vis-à-vis de tout ce qui était étrangers, musulmans, venus de tout leur empire. Mais ça se posait déjà très tôt, en fait, pratiquement au début du XXe siècle. C'est quand même tout à fait étonnant. Et donc, alors, j'ai pas eu le temps de confronter du fait que je ne pouvais pas le recevoir en même temps que vous. Je n'ai pas eu le courage de confronter les noms, voilà, qui sont donnés dans votre livre et dans le sien, mais je sais qu'il y a des noms qui sont communs, puisque c'était une espèce de, voilà, comme on peut porter un pot de chambre sur la tête, ben on peut aussi être pro-Hitler dans un pays qui, lui, s'est engagé résolument contre, en fait. Donc, pour dire que les opinions politiques sont à relier, bien sûr, à des courants rationnels, historiques, sur lesquels, etc., mais on peut les relier ça aussi au caractère. Et l'excentricité est peut-être quelque chose qui va vers l'extrême aussi. Enfin, c'est en tout cas une idée qu'on peut poser à la lecture de vos ouvrages, chers amis.
Oui, et puis bon, après, pour revenir à l'Angleterre, enfin, il y a d'autres éléments d'Angleterre. Il y a aussi le côté ouvriériste qu'on ne connaît pas en France, qui peut traduire aussi une fonction populiste d'une certaine frange de la population, qu'on retrouve aujourd'hui dans les manifestations
Oui,
d'ailleurs.
tout à fait, tout à fait.
Mais ça, c'est très britannique, si j'ose dire. On ne connaît pas en France ça. En France,
Ben, on a un petit peu ça avec le Front National quand même.
et le Front National du 59 et du 62, oui, du Nord, mais
Bah,
beaucoup moins ailleurs.
même aujourd'hui, on reproche assez à Marine Le Pen d'être soi-disant de gauche.
Oui, mais alors, si je peux me permettre, c'est une parenthèse, hein, parce que je ne vais pas aborder le sujet, enfin, je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne pense pas que le Rassemblement national soit capable d'entraîner autant de foules dans la rue qu'un Robinson en Grande-Bretagne. Et pourtant, Robinson ne représente rien et le Rassemblement national représente 32% des voix aux dernières élections. Voilà,
Non, mais
c'est une parenthèse.
il les entraîne dans les urnes, mais
Oui, mais ce n'est pas suffisant, on le
non, mais
verra.
on peut dire que l'électorat est aussi une foule, et que d'autant plus que le vote est secret, et que donc le fait d'entraîner autant de gens qui vous les rencontrez dans la rue pour vous dire, ah, pas du tout, moi je vote pas du
Oui,
tout
mais
ça, en fait ils le font.
justement, c'est ça qui fait la différence avec un peuple justement plus excentrique que peut-être que le. Voilà. Enfin, c'est mon avis, hein, je veux dire
Oui, non,
après.
mais on est là
Et
pour les.
je pense que ce que je dis, on en aura les conséquences l'année prochaine.
Nous verrons, les paris sont ouverts. Mais alors oui, il y a des passages qui sont très amusants. Par exemple, à la page 83, un mariage sans lendemain. Mais même si cette union, alors je ne sais plus quel mari c'est, hein, c'est
Le deuxième,
le
c'est parce
deuxième, voilà.
qu'ils ont été mariés, ils ont été en vie commune 6 mois et encore chez la mère de Jordan.
Même si cette union est d'abord a priori idéologique, dites-vous, il s'agit tout de même d'un mariage entre deux personnes. Et même si, par voie de conséquence, Françoise Dior est nommée responsable de la WUNS, donc qui est...
La WUNS, la World Union Nationaliste
Voilà, c'est
Socialiste.
ça, national-socialiste, pour la propagande en France, la lune de miel est un passage obligé. Le jeune couple, respectivement âgé de 39 et 30 ans, c'était-elle la plus vieille, non?
Non, non.
Ah bon? Ah, c'est lui, d'accord.
Non, 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 elle
Ah,
avait.
d'accord. Bah, je sais pas,
Non, elle avait 30 ans. Elle avait 30 ans.
on est tellement habitués maintenant. donc, le jeune couple.
Elle est née en 32, comme ça, c'est facile à
Oui,
faire comme calcul.
le jeune couple part en Écosse. Et déjà, la cohabitation bon, entre la belle-mère et elle se passe mal, etc. Mais ce qui va mettre finalement le feu aux poudres, c'est que l'un veut dormir fenêtre ouverte avec de l'air et de la lumière, et elle veut absolument dormir calfeutrée sous trois épaisseurs. Et c'est ce qui.
Voilà, c'est le début des problèmes de climat.
C'est quand même très drôle. J'ai beaucoup aimé
Bah,
ces.
disons que oui, bah, c'est pareil, elle tombe sur un garçon qui était célibataire, qui approche la quarantaine, qui vit avec sa mère. Hein, il faut pas oublier que Jordan est un admirateur d'un leader d'extrême droite qui lui a légué en usufruit sa maison. Et
Ah oui.
donc voilà, enfin, c'est bon, il était prof, il a été révoqué pour ses idées d'extrême droite, et donc c'est un petit peu compliqué. Donc il a pris ses habitudes, il a pris un certain nombre de choses, et donc c'est pour ça que j'ai mis ça un petit peu pour faire vivre le livre.
Oui, mais c'est bien, c'est
Alors,
bien.
ce qui est quand même assez bien, si j'ose dire, au sens politique du terme, c'est que le couple va durer 6 mois, donc elle retourne vivre chez sa mère à l'opéra. Lui essaie de la reconquérir, hein, donc il va à Paris, hein, il essaie de renouer, chose à laquelle il n'y arrive pas. Et en 1965, ils feront quand même campagne ensemble sur des législatives en Grande-Bretagne, contre des députés sortants travaillistes. Voilà, ça m'a un petit peu amusé parce que ils ont été
Oui.
à nouveau ensemble sur le terrain en 65, sur des législatives dans des quartiers, dans des banlieues populaires de Londres.
Oui, alors elle n'y va pas par quatre chemins, hein. Elle était furieuse quand même contre lui parce que il trouvait, j'ai trouvé cette expression incroyable, extraordinaire, elle trouvait que c'était un fureur en charentaise de feutre.
C'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est ça,
Et
à penser avoir épousé une, je sais pas, qui est quelqu'un d'exceptionnel, et puis en fait, elle se retrouve avec un leader d'un tout petit parti sans militants. Et voilà.
Et elle
C'est,
a...
je dis, c'est quelqu'un qui a au moins, elle est morte à 60 ans, hein. C'est quelqu'un qui a toujours cherché chez l'homme, en tout cas, c'est le côté patriarcal de l'homme, une exigence absolue, quoi. Donc, vu le tempérament qu'elle a,
Oui, mais
c'est assez
ça fait
vite.
partie des choses que plus personne ne veut entendre aujourd'hui, parce que voilà, la masculinité est supposée être la cause de tous les maux, mais il
Oui.
faut quand même dire que lorsqu'elle dit l'ère d'Hitler a clos celle des guerriers, nous allons maintenant vivre le matin des magiciens. Bon, en parlant pas du matin des magiciens, c'est une autre histoire, mais clos l'ère des guerriers, ça veut bien dire que il y a cette admiration qui aujourd'hui est considérée comme soit n'existant pas, soit étant coupable, mais pour précisément la virilité, la masculinité, l'héroïsme.
C'est ça,
C'est.
c'est pour ça qu'elle quitte, donc Colin pour Terence, hein, dit Terry, qui a 19 ans. Et il est mineur à l'époque, hein, parce qu'on raisonne avec 18 ans, mais n'oublions pas qu'à l'époque, c'est 21 ans, la
C'est
majorité en
vrai, c'est
Angleterre
vrai,
aussi, hein.
c'est vrai.
Donc c'est compliqué, hein, de quitter l'Angleterre avec un mineur. Et donc, en plus, ça va lui faire vivre. Il va retourner en Angleterre, d'ailleurs, parce que quand elle rentre en France, elle va être incarcérée. Donc, il rentre chez ses parents, mais il restera fidèle à Françoise Dior, puisqu'il retournera après en France, évidemment.
Eh oui,
Hein, donc,
c'est ça.
Terry Cooper, on va dire, lui sera fidèle jusqu'à son mariage, puisqu'il se mariera avec une Belge en 1980. Il se mariera à Londres, avec Sylvie. Je
Alors,
ne
pour revenir,
révélerai pas son nom, bien sûr, Sylvie. Voilà.
non. Pour revenir à l'Angleterre, ce qui m'a beaucoup frappé aussi parce que je regarde les actualités en ce moment concernant l'Angleterre, c'est qu'en 1965, vous racontez que lors d'une réunion, tout d'un coup, elle s'écrit Keep the Great Britain White. Donc,
Oui.
c'est quand même un problème qui était depuis longtemps sur le feu, cette histoire.
Oui, ben, Enoch Powell n'est pas très loin non plus, hein, en termes de date.
C'est vrai, absolument.
Hein, c'est 68, je crois. Et c'était un leader conservateur. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en 65, quand il y a ces deux législatives partielles auxquelles elle participe au niveau militant, elle transforme son discours dont nous avons évoqué tout à l'heure les dérives, donc j'y reviendrai pas, en discours contre l'immigration.
Oui,
Et
voilà.
ça, c'est une grande nouveauté, Catherine, justement, par rapport à ce que vous suggériez tout à l'heure.
Oui.
C'est le passage bien avant celui que nous avons connu en France, on va dire, en 80.
Oui, tout à fait.
Et ça, moi, quand j'ai cherché, hein, et effectivement, j'ai trouvé des photos de campagne où elle se grimait pour montrer que la Grande-Bretagne allait devenir. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'islamisation, on était plutôt sur de la couleur. Donc, elle allait devenir une nation de couleur, et donc, bah, c'est qu'il ne fallait pas. Donc, et c'est là qu'on voit que même le député, enfin, il n'était pas député, mais il sera élu député. Donc, le député conservateur, il sera mis en porte-à-faux comme Charles Millon en 1998, parce qu'on lui dira: est-ce que vous condamnez ces propos? Et le candidat conservateur qui devient député dit: mais je ne peux pas condamner des propos qui viennent d'un électorat populaire.
Oui, mais par exemple, il y a un autre qui est cité, alors je m'y perds un peu parce que je ne connais pas très bien cette période d'Angleterre, mais qui, lui, au contraire, va devenir immigrationniste. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tous ces gens-là vont devoir choisir, en fait, sur ce
Ah
sujet.
oui. Mais c'est quand même un moment assez intéressant en étude
Oui, tout à fait.
de voir en gros, c'est la grande théorie de Carl Schmitt, qui est l'ennemi principal.
Tout à fait. Mais
Tant
bon.
qu'on reste dans une imagerie un peu croquignolesque, bah c'est amusant peut-être, mais ça n'a pas grand intérêt électoral, ça n'a pas grand intérêt politique. Alors que quand on passe sur d'autres thèmes, ben voilà, c'est, enfin voilà, qu'on comprenne qui pourra, si j'ose dire.
Alors, il y a un autre aspect qui m'a frappé aussi, c'est le lien entre ce qu'on appelle donc extrême droite, avec toutes les nuances qu'on peut faire, et les coloniaux, comme on disait jadis, hein, on disait, oh, c'est des coloniaux, ils reviennent de machin, de Djibouti, de trucs, etc. Il y a quand même quelque chose là, et ça ressurgit aujourd'hui dans le wokisme, c'est-à-dire dans le fait de lier justement l'attitude de manière générale vis-à-vis des gens de couleur et une propension à être bien à droite dans les idées, à être pour une répression, à être pour l'ordre, etc. Il y a quand même ça quelque part.
Des Européens qui reviennent des colonies.
Oui, qui sont pas du tout, qui sont en général pas socialistes, hein, pas du tout, c'est pas du tout la tendance. C'est ce qu'on
Sauf
voit un petit
Mélenchon. Mais oui, effectivement, oui.
peu. Alors Mélenchon, oui, c'est un petit peu particulier,
Mais
effectivement.
non, je dis ça en plaisantant, mais je veux dire,
Ouais.
oui, c'est vrai qu'il y a d'ailleurs, quand Françoise Dior veut créer une élite politique. Elle met des publicités d'Henri Varhol, hein, le journal
Oui.
en début des années 60, mais elle va recueillir beaucoup de gens, soit qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, mais pas forcément du bon côté, ou des anciens d'Algérie française. Oui. Euh, son,
Ah, oui, ça
son,
justement, on voit se
son,
nouer ces choses
son
très
plus grand.
compliquées.
Son
Oui.
plus grand ami, enfin, sa plus grande relation à l'époque, c'est Yves Jeanne. Yves Jeanne, qui habitait à l'époque au Puy, hein, et qui était comptable au Puy, et qui venait d'Algérie, hein, qui était donc un colonial, qui était un pied noir, quoi.
Voilà, et ces gens-là étaient tout à fait contre la politique gaulliste qui a été d'abandonner l'Algérie, hein, tout à fait contre.
Oui, bien sûr.
En France, mais en
Bien sûr.
Angleterre, il y avait aussi un immense empire, et donc il y a aussi des réactions qui sont, voilà, des réactions traditionnelles. Il est certain que ceux qui étaient en poste en Afrique, voilà, ne faisaient pas vraiment de l'humanitaire. C'était pas vraiment leur truc. Hein. Les colonies anglaises étaient connues d'ailleurs parce que justement, ils gardaient une distance avec la population que les
C'est
Français ne
ça.
gardaient pas.
Voilà, il y a une différence, je crois. Enfin, je ne suis pas spécialiste de l'affaire, mais je pense qu'il y a une différence entre la colonisation économique et la colonisation charnelle. Il y a aussi la troisième, hein, il y a la colonisation portugaise. Je veux dire, la colonisation portugaise, vous allez au Cap-Vert, vous avez des populations extrêmement mélangées.
Oui.
Je parle mélangées physiquement. La France, c'est un peu mixte, c'est-à-dire que vous aviez pas forcément cet aspect, mais vous avez ce comportement de l'Algérie surtout, parce qu'il y a aussi l'Algérie et les autres.
Bien sûr, l'Algérie, c'était la France, c'était pas
Voilà,
pareil.
c'est ça.
Oui.
Et on était vraiment dans un. Oui, mais bon, on peut le ressentir, oui, et ça, on le ressent plus dans les années 60, mais ce qui est un peu logique.
Oui, enfin, tout de même, moi, ayant été à Aix-en-Provence, m'étant présenté donc à Aix-en-Provence, j'ai vu que toutes ces solidarités-là sont toujours en place, hein. C'est les enfants, c'est
Oui,
les petits-enfants, mais c'est toujours là.
c'est
Voilà.
vrai, mais c'est pas forcément.
Et donc, ils votent Front National ou Rassemblement National et ils voteront pas ni
Vous savez,
UDF, ni la
les
gauche.
gens, on a beaucoup tendance, dès qu'on dit un
Oui.
nom, à dire, ah, il vient, il vient, il vient. C'est pas un scoop que je vais révéler, hein. Le responsable du Parti socialiste à Marseille aux adhésions
Oui.
en 1974, Monsieur Balalas, il avait été candidat Front National en 73.
Ah oui, c'est
Et il
vrai.
venait d'où? Il était pied noir. Hein, et il était toujours adhérent à ADIMAD. Alors, ADIMAD, c'est une association d'entraide de gens qui venaient d'Algérie. Donc, vous
Oui,
voyez,
oui.
c'est vrai que c'est. Et ça, personne ne le rappelle. Hein. On rappelle toujours que le Front National a été créé par. Enfin, bon, on le sait
Ah
par cœur maintenant, on le
oui.
sait par cœur. Donc, mais moi, je dis que le PS marseillais, en 74, était dirigé par un ancien candidat du Front National aux élections législatives. Suffit de vérifier, quatrième circonscription en
Ouais.
1973, Théodore dit Théo Balalas. Voilà, donc c'est pour ça que Il faut toujours relativiser les éclats de voix en disant un tel vient. Ben oui, mais tout le monde vient de quelque part.
Oui, et justement, la porosité est très intéressante. On la voit très, très bien dans ce livre. Alors, comme le retourne, évidemment, et qu'on est déjà,
Ah,
on a
toujours.
déjà passé, voilà, au bout de temps, je vais aller vers les choses que j'ai trouvées abominables parce que
Ah.
je pense que si c'est dit, c'est que ça a une raison d'être et qu'on peut voir que le dérèglement de cette femme n'est pas seulement un dérèglement qui peut être politique, mais qui est tout à fait ontologique. Notamment, alors, à partir de la page 105, non, page 99 déjà, on voit que, bon, du coup, elle bascule du côté des femmes. Elle a une maîtresse d'origine arabe qui a été dans des. C'est très intéressant ce passage, qui a été dans des harems, etc. C'est très, très surprenant. Enfin, on ne s'attend pas tellement à ça. Page 105, elle passe à une maîtresse anglaise, bon, dont je ne décrirai pas spécifiquement les choses. Elle va en prison, donc elle fait des tentatives de suicide quand même, quatre tentatives de suicide, c'est
Oui,
quand
elle
même
était
énorme.
très fragile psychologiquement.
Et
On parlait de religion tout à l'heure. Elle a beaucoup travaillé sur la fin de sa vie, sur le bouddhisme pour
oui.
s'apaiser.
Alors, je voudrais lire simplement ce passage. Tant pis pour vous, hein, vous l'avez écrit, donc je vais
Oui,
le lire.
oui,
Donc, c'est à la page 115. Françoise Dior signe le contrat d'acquisition immobilière, etc. Et emménage avec Terry Cooper. Donc, il est toujours là, lui, en fait. C'est
oui.
fou,
Oui,
il
bah,
est tout, tout
toutes
au long de
les années
l'histoire.
70, il sera là.
Dans un ancien presbytère, etc., etc. Bon. De la fenêtre de la chambre à l'horizon, on peut voir le village de Saint-Aubin-de-Tergat, situé à 9 km au sud. Le couple vit en compagnie de 9 chiens. Bon, je ne voudrais rien dire, j'aime beaucoup les animaux, mais pour 9 chiens, déjà, c'est quand même quelque chose. Elle transforme une chambre en une chapelle,
Oui.
avec des tableaux de la tour de Babel, des cristaux, de l'encens et un buste d'Adolf Hitler déposé sur un meuble comme décoration. Bon, le midi, elle lit des textes de la Bhagavad Gita, je ne connais pas, texte.
Oui, c'est une maison religieuse bouddhiste.
Texte fondamental de l'hindouisme. Elle fait aussi des confitures, comme en prison à Londres. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des confitures en prison, mais c'est intéressant.
C'est là, c'est pour l'anecdote, hein, je l'ai su de manière anecdotique, c'est là qu'elle a appris à faire des confitures à Londres, en prison.
C'est fou. Et pratique une sexualité ouverte avec Thierry Cooper, où le pauvre, il en a tellement vu déjà, fondée sur le triolisme et l'homosexualité féminine. Donc voilà. Lors de la visite de la maison, l'ancien propriétaire a demandé 2 semaines pour effectuer son déménagement. Lors de la visite de la maison en plein été, tout est en floraison et le jardin déborde de légumes. Pendant ces 2 semaines de préavis, l'ancien propriétaire travaille comme un forcené pour, etc. Bon, après, c'est autre chose, mais
Oui.
rien que ce qui est décrit là. Bon, ça donne quand même l'idée d'une espèce de. Comment dire? On n'a plus les mots, enfin, quand on voit ça, je trouve.
Et pour ne pas choquer, je n'ai pas tout dit.
Bon.
Parce que je vois qu'il y a des choses qui manquent. Il y a un certain moment, hein, sur l'aspect triolisme, si vous voulez. Mais
Oui.
c'est vrai, oui, effectivement. Pour être clair et pour le dire de manière évidemment très académique, Françoise Dior se servait de Terry Cooper pour assouvir sa propre sexualité.
Oui, donc tout ça était effectivement bon, d'accord. Alors, pour moi, tout ça, bon, effectivement, ça fait partie des abominations qu'on retrouve dans une certaine société aujourd'hui, hein, dont le modèle n'est plus Hitler, certes,
Non,
mais.
non, mais de toute façon, Françoise Dior s'est totalement adaptée au paysage. Elle soutiendra Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Elle collera des affiches avec les républicains indépendants qui n'étaient pas très nombreux à l'époque, hein. Je parle du premier tour. Mais il y aura toujours cette tendance que vous venez de citer comme abomination. Alors là, on va plutôt être dans le Cabrol, dans la bourgeoisie de province. Ouais.
Oui, mais peut-être pas jusqu'à singer la religion et la traîner dans la boue, en quelque sorte. C'est pas seulement l'aspect sexuel qui me choque.
Ah oui, non, pas non, mais je veux dire, elle ira à la messe le dimanche et puis chez elle, elle a son petit temple secret, oui.
Ah, c'est fou. Alors oui, moi, ce qui m'a étonné aussi, là, c'est. On parle de libéralisme. Normalement, le libéralisme se trouve plutôt exclu de ce genre de choix politique. Eh bien non, là, pas du tout. Elle soutient Giscard en 74, Thatcher en 79, et se retrouve finalement aux côtés de Chirac, qui lui
C'est-à-dire,
va.
en fait, tout est un petit peu contexte. Chez Dior, c'est-à-dire, elle soutient Giscard, c'est son côté un petit peu rebelle. Faut se remettre en 74. En 74, tous les rebelles de droite soutiennent Giscard. Les gens de droite qui ne sont pas rebelles soutiennent Chaban-Delmas.
Oui, enfin, il y a aussi ceux qui soutiennent Royer, hein?
Oui, ou Le Pen. Mais ceux qui soutiennent Le Pen ou
Ah, Le
Royer,
Pen,
pas, pas...
il n'était pas en
Si, si,
74.
si, si, il était.
Il était déjà
Oui.
candidat.
Ouais. Mais je veux dire, ceux qui soutiennent Le Pen et Royer passent pour ringards. Dior n'est pas ringarde, elle est rebelle.
Oui, bien
Donc,
sûr.
voilà. Et puis, pour la suite, que ce soit Margaret Thatcher ou Chirac, et en fait, elle a toujours gardé des liens. Alors, je n'ai pas creusé, ça j'avoue que je n'ai pas eu l'opportunité. Elle va toujours conserver des liens avec certains conservateurs britanniques. Ça date donc des années 65. Et je pense qu'à ce moment-là, quand Thierry Cooper va rencontrer une compagne, une vraie compagne, elle va vouloir à tout prix donc se marier, hein, puisque l'objectif, elle n'aime pas être seule, hein, je pense que vous l'avez remarqué.
Ouais.
Donc son objectif, ça va être de se marier. Et elle a dans l'idée de trouver un leader ou un responsable conservateur anglais ou français. Donc elle hésite entre les Tories britanniques, le RPR français. Voilà. Et elle se mariera en 83.
Et alors, on retrouve ça pas seulement chez elle, mais de manière générale. Je vois par exemple ce que vous écrivez aux pages 146 et 147. Il y a une espèce d'anarchie des appartenances politiques qu'on trouve, par exemple, vous parlez du Club de l'Horloge. Bon, alors c'est vrai que le Club de l'Horloge, qui se voulait et qui se veut toujours, un espèce de laboratoire d'union des droites, il y avait des gens du RPR, donc il y avait le Galou, etc. Il y avait des liens avec le Front National vers lequel certains sont allés depuis. Et puis, il y avait l'esquin qui se disait libéral national. Enfin, c'était déjà en soi quelque chose d'assez complexe, finalement, qui ne sautait pas aux yeux quand on... Enfin, c'était un temps, voilà, où vous et moi, on était très jeunes. Et donc, on ne voyait pas forcément tout ce qui s'était construit derrière, en réalité. Alors, il y a des choses étonnantes aussi. Vous parlez après de Jacques de Ricaumont, alors que moi, j'ai connu parce que ma mère faisait partie du groupe qu'il avait constitué autour de Monterland.
Du
Et nous avons
cercle.
donc été chez lui, il était boulevard Saint-Germain, je me souviens très très
C'est
bien
ça.
de tout ça. Et c'est là aussi on trouve l'homosexualité.
Ah bah,
On
voilà,
a.
c'était même un des éléments essentiels, enfin pas
Oui.
l'élément seul, la preuve, parce que vous avez parlé de votre mère à l'instant, mais bon, autour de Ricaumont,
Oui, bon. Non, mais
c'était
elle
pas
était
des...
archéologue, donc
Oui, mais je veux dire...
si on est femme, mais archéologue, ça peut passer.
Mais Jacques de Ricaumont, donc... Alors, c'est ce qui était quand même assez amusant, c'est quand même l'homme hors du champ politique qui a été un des premiers qui a eu le courage de soutenir Le Pen
Oui,
à la présidentielle de 88.
tout à
C'était
fait.
de mémoire son président du conseil du comité de soutien.
C'est ça. Et voilà, c'est là quand on commence à étudier tout ça, on a beaucoup d'idées préconçues qui tombent. Par exemple, moi, j'étais plutôt d'une génération où l'homosexualité, c'était à gauche, parce que c'était une conquête de la gauche de faire que ça devienne des mariages au vu et au su de tout le monde. Et donc, j'étais très surprise de voir que
Non,
ça existait énormément à droite.
il y a plusieurs tendances. Enfin, le sujet n'est pas là, mais j'ai travaillé un peu sur ce sujet. Et entre Jean Marais et la Gay Pride, il y a un gouffre.
Bien sûr, et entre Ricaumont et les Pride aussi.
Oui,
Mais
voilà.
pour moi, c'était exclusivement de gauche. Donc c'était très, très
Oui,
curieux. Parce que
pas
on ne
du
se
tout.
comprenait pas, mais on ne savait pas tout ça, on ne le disait pas.
Oui.
Quand j'allais voir M. de Ricaumont, je ne me demandais pas ce qu'il faisait la nuit avec qui. Donc, et puis alors, on retrouve alors, des figures comme le prince Sixte de Bourbon-Parme. Dans votre livre, c'est intéressant parce qu'on voit comment, enfin, on pressent, parce que ce n'est pas décrit ça en détail, mais. On pressent comment tout ça s'articule d'une manière inattendue parfois quand même, je trouve. De même que venait faire l'Irak là-dedans. Effectivement, je me souvenais que Madame Le Pen avait soutenu les enfants d'Irak, avait envoyé des
Oui, elle
qu'elle
avait créé une
change, hein?
association SOS Enfants d'Irak.
Oui, mais là, en lisant votre livre, on comprend tout d'un coup le lien, mais on ne comprend pas sinon. Qu'est-ce que ça vient faire là, en fait? Alors, on peut dire, oui, soutien, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient anti-américains? Que devient l'anti-américanisme dans tout ça? C'est très intéressant. Franchement, j'ai trouvé qu'il faut continuer, hein, il faut continuer, faut quitter Madame Dior, mais continuer dans l'analyse de tous ces diverticules qui finissent par.
Bah, vous savez que c'est un livre, c'est un livre, il y a très longtemps que je l'ai écrit en fait, hein. Il y a très longtemps, il y a longtemps. Et je l'ai pas publié pour une raison qui m'est personnelle. Et l'année dernière, j'ai décidé de le faire. Donc, évidemment, je l'ai remis à jour. Je l'avais pas écrit formellement, mais tous les éléments étaient dans un de mes tiroirs et mes souvenirs et mes rencontres. Et une fois que l'élément qui me bloquait quelque part n'existait plus ou existait moins, eh ben je me suis dit bon bah allons-y parce que c'est j'ai écrit un peu comme un roman quoi. C'est
Et c'est ça qu'il faut faire, exactement.
Françoise Dior, c'est un roman.
C'est un roman, tout à fait. Mais si je peux dire, pour moi, par exemple, qui m'intéresse vraiment depuis très longtemps et en théorie et en pratique à ces différences qui se traduisent dans les élections, mais qui sont bien plus subtiles que simplement leur aspect électoral, on a envie. Que ce roman soit plus sur une figure, mais soit plus général.
Sociologique,
Ouais.
sociologique.
Oui,
Oui,
exactement.
mais j'aime aussi étudier l'underground, donc un peu comme Christophe Bourseiller, toute proportion gardée, bien sûr. Donc l'aspect sociologique est intéressant, mais l'underground,
Ah non, mais ça en fait partie pour moi.
Ah oui, d'accord. Non, mais je veux dire voilà parce que d'ailleurs qui est un mot anglais comme par hasard, mais on retrouve dans l'underground des éléments très intéressants qu'on n'a pas l'habitude de voir et que les gens seraient surpris s'ils les connaissaient un petit peu.
Mais oui, et je recevais hier donc Pierre Chazeran qui a écrit ce livre sur le pèlerinage des pères. Mais avant ça, il a écrit un livre qui retraçait lui et sa femme sont allés aux Mureaux pendant des mois pour vivre donc dans les quartiers, les fameux
Oui.
quartiers immigrés. Et les conclusions qu'ils en ont tirées sont parfois très surprenantes. Enfin, je devrais pas dire des conclusions, mais le récit. Qu'ils en ont tiré et parfois extrêmement surprenant. Et en faisant soi-même d'ailleurs ce que j'ai fait de la politique sur le terrain, là aussi, on s'aperçoit que j'ai dit tout à l'heure ça pour les homosexuels, mais on peut dire ça aussi pour les Arabes et les musulmans. C'est très étonnant. En réalité, on colle des étiquettes et on s'aperçoit que ces étiquettes peuvent changer, que ces étiquettes, elles ont une raison, et que cette raison, si elle est enlevée, les choses peuvent changer complètement. C'est fascinant, en réalité. Il y a une, comment dire, il y a une, il y a un côté pâte à modeler, en fait, chez l'être humain, qu'on a du mal à percevoir parce que, surtout quand on raisonne en théorie, on est obligé de faire des cases, on est obligé de mettre des étiquettes, on est obligé. Et il faut faire vraiment très attention parce que la réalité, pour le coup, dépasse largement les étiquettes. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans ce livre dont je rappelle pour les auditeurs que ce livre s'intitule Françoise Dior ou le crépuscule d'une Valkyrie. Il est paru chez Ars Magna dans sa collection Devoirs de mémoire et que il est écrit par Franck Bulleux. Et donc, qu'il concerne bien sûr la famille Dior en général, qu'il concerne toute une époque aussi,
Oui,
mais qu'il.
plusieurs époques, enfin toute l'après-guerre, quoi, jusqu'à la fin de la guerre froide, on va dire ça comme ça.
Oui, c'est ça. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que tout ce que j'observe en ce moment peut être relié à ça, à beaucoup de choses en
Oui,
tout cas.
non, mais.
Notamment pour ce qui concerne l'Angleterre, mais pas seulement, pour ce qui concerne l'islamisation, pour ce qui concerne. Énormément de choses, le wokisme, on trouve les racines finalement de tout ça. Et alors on va arriver bientôt à la fin de l'émission et je voudrais quand même citer Cette phrase, alors là aussi vous allez me dire, mais je ne peux pas l'affirmer, je ne peux pas complètement le justifier, mais elle aurait dit avant de mourir, je me vois mourir dans les flammes de l'enfer. Alors j'espère pour elle que c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'on a un peu cette on se dit un peu quand on a lu tout ça, on se dit c'est un petit peu logique.
Vous savez, quand vous voyez la photo qui a été publiée dans Libération, peu de temps avant sa mort, hein, je crois donc ça devait être en 82, donc quelques mois avant sa mort, on la voit faire le baisement au comte de Paris. À côté, il y a son mari, donc Hubert de Mirlot. Mais on la voit flétrie, usée, comme mendiante, comme si elle mendiait le regard du comte de Paris, bon, de l'époque, bien sûr. Et on sentait vraiment qu'elle en avait vraiment assez. Hein. Donc, je rappelle, elle est morte à 60 ans d'un cancer du poumon.
Et c'est tôt, 60 ans.
Ah oui. Je veux dire, la fin de sa vie, je pense, a été effectivement. Pas un calvaire, évidemment, au sens où on pourrait
Oh, si,
l'entendre,
quand
mais.
même, avec l'histoire de sa fille en plus, quelle horreur.
Oui,
Oh, alors.
puis les seules sorties après qu'elle se donnait, c'était des sorties mondaines avec des personnalités, ben voilà, chez Sixte Bourbon de Parme ou chez le comte de Paris.
Voilà,
Alors
tout
bon,
ce milieu, oui, qui
c'est
est.
très intéressant, certes, mais je veux dire, Hubert de Mirlot, donc, qui avait été responsable du Grèce dans les années 70, puis responsable du RPR, donc quartier de Saint-Germain, puisqu'ils habitaient rue de Verneuil, dans le 7e, donc l'avait fait rentrer dans tous ces milieux. Et moi, j'ai discuté avec la femme d'après d'Hubert de Mirlot, puisqu'évidemment, c'est de Mirlot qui a eu accès à ses dépouilles. Parce que je m'intéressais à certaines choses, parce que je m'intéressais à sa vie, donc par définition, je m'intéressais à certaines choses. Et Dorothée, qui doit être toujours vivante, qui est une spécialiste d'Edgar Cayce, auteur américain, m'avait révélé un certain nombre de choses. Bon. Mais comme elle était elle-même depuis divorcée, toujours avec Hubert de Mirlot, elle n'en savait pas plus, quoi. Mais bon, j'avais essayé de creuser un peu parce que Françoise Dior avait des comportements extraordinaires hein, en société. Hein. Mais voilà, avec des responsables RPR, UMP, enfin voilà, c'était à chaque fois, c'était toujours compliqué parfois.
Oui, mais du moment qu'elle était au centre du jeu, ça allait, mais
C'est
c'est
ça.
pas
Donc en fait, à partir de 83. Et donc, et elle meurt en 93. Voilà, elle vit dans ce monde un petit peu aseptisé. Alors, de temps en temps, elle se fait une petite sortie ultra pour garder un petit peu la forme intellectuelle, si j'ose dire. Non, mais c'est vrai, j'en cite une d'ailleurs dans mon livre. Et puis voilà, la vie s'écoule tranquillement ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que
Alors, je vais vous laisser dernier mot parce que je
bon.
pense qu'il va nous falloir nous rendre bientôt l'antenne au cher Benoît qui nous aide à faire cette émission. Et je voudrais en fait terminer par cette phrase qu'on va vous pardonner. La dernière phrase du livre, le silence est Dior.
Oui, mais j'y tenais. J'y tenais parce que je reste moderne et donc je pense que Dior, c'est d'abord une image moderne. Et puis, il y a tellement de gens qui m'avaient dit, oh, tu sais, on ne sait jamais, hein, Monsieur Arnaud va peut-être être fâché. Donc, Monsieur Arnaud, il a autre chose à faire que de
Oh,
s'occuper
je
de ce
pense
que
qu'il lui en
j'écris.
faut plus, oui, il en
Oui,
faut
non, mais
plus.
voilà, non, mais il y a des... Bon, enfin bref. Et non, mais je vous remercie beaucoup, Catherine, de m'avoir reçue. Pour évoquer donc cette égérie méconnue qui représente un nom, une marque, une enseigne, qui représente, vous l'avez dit tout à l'heure, une partie du mal. On a peu évoqué la disparition de sa fille. Je pense
Ouais,
que...
j'ai trouvé ça tellement affreux. Bon,
Voilà, mais je
je
pense
laisse
que ce...
les auditeurs le découvrir.
Ouais, ben oui, avec plaisir. en lisant mon livre.
Voilà, bon, ben, cher ami, donc
Voilà.
j'annonce que les prochaines, sauf s'il fait une chaleur tellement atroce que finalement je fuis à l'autre bout du monde, c'est le 22 et 23 juillet, nous irons au Brésil, justement, qui est un livre très intéressant de quelqu'un qui nous décrit ce qui se passe au Brésil, qu'on ne sait absolument pas, qui est une sorte de dictature en ce moment épouvantable. Et puis, nous aurons aussi Laurie Martinez qui sera à Jérusalem, qui fera un concert à Jérusalem, que nous aurons sans doute donc 22 et 23 juillet. D'ici là, eh bien, je vous souhaite d'avoir moins chaud et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Au revoir et merci. Merci Franck Bulleux d'être venu sur Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre La Tête hors de l'eau dirigée par Catherine Rouvier, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 25 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.